France Culture.
Autrive, ce 28. Mon cher Pierre, je t'envoie d'Autrive nos vœux bien affectueux pour ta fête. Cette carte te représente le château de Barral, de la grand-mère de Georges, chez laquelle nous sommes depuis 2 jours. Nous repartons demain pour Longueval. Remercie Henri de sa lettre. Nous allons très bien et nous envoyons à tous deux 1000 bonnes amitiés. Gabriel. À Monsieur Pierre de Renéville, École Sainte-Geneviève, 18 rue Laumont, Paris 5e.
Les cartes postales du facteur cheval, premier épisode, les tournées. Une histoire particulière de Céline Duchesnay et Laurent Polleré. Frédéric Legros, vous êtes directeur du Palais Idéal et nous sommes là en haut d'une colline avec Autrive à nos pieds. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce paysage ?
C'est vrai que c'est un paysage que j'aime beaucoup parce que on voit les collines, on voit la vallée de la Galaure, cette rivière qui traverse Autrive. Tout ça, c'est les inspirations du facteur cheval. Et d'ici, en fait, on voit la tournée du facteur. C'est-à-dire que si on prend comme point de repère l'église du village de Autrive, avec le centre-ville qui se trouve sur la droite par rapport à l'église, de là où on est, on voit ensuite, si on continue plus à l'ouest, tout le chemin que faisait le facteur cheval jusqu'à un petit hameau qu'on voit au loin, le hameau de Traigneux, avec une autre église. Si on remonte le long de la colline qui est sur notre gauche, eh bien juste derrière cette colline, on a le village de Tersanne qui faisait aussi partie de la tournée du facteur. Là où on est, ben, ça fait aussi partie de la tournée. Et on a ensuite, sur notre droite, les collines, les sommets des collines au-dessus d'Autrive qui font partie de la tournée. On est vraiment dans les paysages du facteur cheval.
Charme sur l'air basse, le 31 mai. Bien cher copain, tu m'excuseras si j'ai tant tardé de te faire réponse, car voilà 2 jours que j'ai reçu ta gentille carte qui m'a trouvé en bonne santé comme tu l'espérais. Et je pense que ma carte en trouvera ainsi, tellement que l'on est occupé d'une façon ou d'autre. C'est pour cela que ce matin, je te garnis cette petite carte pour te faire savoir des nouvelles. Rien de nouveau au pays. Peut-être que tu pourras venir en Perne dimanche prochain. Je termine en bonne santé. J'espère que tu en es de même. Reçois les meilleures amitiés de ton ami qui pense à toi souvent. Robert Julien. À Monsieur Pornoin, sergent-major, 3e régiment d'infanterie, fort de Montrouge, Seine.
Les tournées du facteur cheval, c'est 40 km maximum, entre 30 et 40 km,
oui.
À pied, tous les jours.
Alors chaque matin, effectivement, il vient chercher le courrier à la poste de Autrive, puis il part le distribuer dans tous ses hameaux, dans toutes ses maisons autour. Et quand on est là, on se rend compte de l'ampleur de la tournée et de tout ce qu'il a à parcourir. Il récupère aussi le courrier à Tersanne. On sait que d'ailleurs ça pose des problèmes parce que la tournée est tellement longue que en fait le temps qu'il récupère le courrier à Tersanne, qu'il arrive, en fait les gens de Tersanne se plaignent que le courrier a toujours un jour de retard. Mais voilà, parce que physiquement cette tournée prend du temps, prend une journée. Il coupe à travers les rivières et à travers les forêts quand il le peut. Et bien sûr, à partir de 43 ans, il commence à repérer sur cette tournée des pierres qui pourraient habiter son palais. C'est une région qui est très riche en pierres. D'ailleurs, c'est assez marrant. Quand on regarde le champ qui est juste devant nous, qui vient d'être labouré, on voit qu'il y a plein de pierres qui sont ressurgies de la terre. Donc, ces pierres, il va les regarder, il va les repérer au fur et à mesure de sa tournée. Quand elles sont du moins d'une taille et d'un poids possible, il les garde avec lui et il les ramène à Autrive. Et quand c'est pas le cas, il les met sur le bord du chemin et le soir, il repart avec sa brouette, refait parfois jusqu'à 10 km de plus pour récupérer ses pierres et construire le palais ensuite la nuit.
Il y a donc un vrai lien entre ces tournées de facteurs et la construction de son palais.
Totalement. Je pense que ces tournées, la marche, l'effort, c'est véritablement ce qui l'amène à construire le palais. Tant parce que déjà, c'est un accident qui lui donne le déclic de la construction. Il trébuche sur une pierre, il fouille dans la terre, découvre une pierre extraordinaire et il se dit, si la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Mais ça, ça commence par le fait de tomber sur une pierre, ce qui est quand même une rencontre avec le paysage un peu marquante, un peu singulière. Mais c'est ce qui va donner ensuite ces 33 ans de construction du palais. Il y a une description que j'aime bien. Descartes disait « Je pense, donc je suis ». Et son contemporain, il y avait Gassendi, lui avait répondu « En bulo ergo sum, je marche, donc je suis ». Et c'était cette idée que c'est l'action qui devait prévaloir et pas que la pensée. Et chez le facteur cheval, on a ça. C'est-à-dire que on a une pensée qui se met en mouvement tous les jours au travers de 40 km de marche qui deviennent 40 km de rêverie, de réflexion, d'observation de la nature jusqu'à déboucher le soir sur une construction. Mais tout ça, ça vient de la marche. Ça vient de ses tournées. C'est à la fois là qu'il ramasse les pierres, c'est là qu'il pense aussi. Et voilà, donc oui, les tournées sont fondatrices véritablement de la création du palais.
Ces tournées vont commencer en 1867 ? Parce qu'il devient facteur à ce moment-là et il prendra sa retraite à l'âge de 60 ans. Donc on est en 1896.
Exactement.
29 années de marche et de tournée.
Oui, et qui vont être aussi pour lui une façon de servir son pays, il le dit. Il dit qu'il n'a pas servi son pays en tant que militaire, mais qu'il l'a servi comme bon nombre de ses compagnons en étant facteur rural. Facteur rural, en plus, c'est une dénomination des postes qui fait qu'en fait, il a une paye qui est bien moindre qu'un facteur en ville, alors que l'effort, lui, n'est pas réduit, au contraire. Quand même dire, pas forcément important, mais je trouve que c'est bien de le rappeler, au travers de... On a des visiteurs tous les jours à qui on raconte cette histoire, on raconte cette tournée, ces 40 kilomètres, cette source de rêverie, et c'est impressionnant, et ça en a fait le facteur cheval, effectivement. Mais il n'était pas le seul à faire ces 40 kilomètres tous les jours. Hein. Dans toutes les campagnes, les facteurs traversaient les paysages. Lui en a fait autre chose, c'est vrai, mais il y a quand même tout... toutes ces personnes qui faisaient ça et qui travaillaient chaque jour, que ce soit dans les Alpes, dans le Limousin ou ailleurs.
C'était un homme d'un tempérament pas très grand, hein, certainement un homme, un gros travailleur, hein, la preuve en est. Hein, moi, quand il a fini ce palais, j'avais que 9 ans. Alors là, je ne l'ai pas bien connu. Le mieux que j'ai connu, c'est après, quand il a travaillé à son caveau. Alors là-bas, j'étais plus grand. Mais alors, j'ai entendu parler les gens, vous comprenez? Donc, ma mère, qui était dans le cabinet au Trive, et puis que, chez nous, parce que vous savez, tous les cailloux, toutes les coquillages, ça tout est ramassé là, dans notre région. Alors, ma mère me disait, moi, pendant l'école, on apportait un caillou, 2-3 cailloux au père cheval. Il me disait peut-être mieux. Et il nous donnait une barre de chocolat.
Et le facteur cheval, il vous parlait justement de son œuvre?
Ah, moi, je lui ai jamais bien parlé, hein. Je lui ai jamais bien parlé pour pas dire, vous comprenez. Quand il a fini en 1913, j'avais 9 ans. Hein. Mais une chose qui est certaine, hein, ce qu'il a fait, un travail, il a dit qu'il faisait le bonheur du pays un jour, et c'est bien vrai. Hein. Quand il était facteur, il n'a pas débuté facteur au Trive. Il allait à Saint-Sorlin. Hein. Alors tenez-vous bien, il partait le matin. Nous avons 11 km pour aller à Saint-Sorlin et 11 km pour venir. Alors il faisait donc 22 km plus la tournée de facteur. Et quand il revenait, eh ben, il apportait des cailloux, n'importe. Parce que chez nous avons deux ruisseaux chez nous où on trouve les cailloux et les coquillages. C'est Claret et Neuillon. Et même encore aujourd'hui, si on a une grosse trompe d'eau, n'importe, vous allez à Neuillon, là, vous trouverez encore des pierres qui ont des formes bizarres et qu'il a su assembler pour faire quelque chose. Et ce que je voudrais, moi, vous ajouter, c'est que si ça pouvait se produire, ce serait un miracle, qu'il revienne, le père cheval, un jour, un dimanche de Pâques ou un dimanche de Pentecôte, et puis qui voit tout ce monde là, eh bien il dirait, j'avais raison.
Donc là on monte sur le côté, donc la maison elle est longée par une petite terrasse qui donne une très très belle vue sur le palais, sur l'angle nord-est, et donc nous allons rentrer dans la maison du facteur cheval. Voilà, donc là nous sommes au rez-de-chaussée de la maison du facteur cheval, et nous allons passer à l'étage du coup.
«
Laurie Cheval-Bianco, vous êtes coordinatrice des expositions au Palais Idéal du Facteur Cheval et nous sommes dans la maison du Facteur Cheval et devant nous, les fenêtres qui donnent sur la façade nord-est du palais. Est-ce que vous pourriez nous présenter le Facteur Cheval ?
Alors, le Facteur Cheval, avant de s'appeler le Facteur Cheval, il s'appelle Joseph Ferdinand Cheval et il est né en 1836. Il n'est pas né à Hautrive, il est né à Charmes-sur-l'Herbasse, qui est un petit village qui est pas très très loin d'ici, qui est à peu près à 30 minutes en voiture. C'est vrai qu'au départ, le Facteur Cheval, avant de commencer le palais, il a une toute autre vie. En fait, il est boulanger. Il est aussi ouvrier agricole. Et en fait, sa deuxième vie va commencer avec le palais idéal quand il a 43 ans. Donc il a déjà une famille, il a déjà eu des enfants, etc. Mais quand il s'attelle au palais, c'est au moment où il devient facteur des postes à Hautrive et il est nommé sur la tournée de Tersanne, donc Hautrive, en 1878. Donc en fait, l'histoire du palais, ça commence juste après 1879. Donc c'est vraiment, vraiment en corrélation directe avec le fait qu'il soit facteur aussi.
Pourquoi est-ce que c'est corrélé au fait d'être facteur ? Parce que bâtisseur et facteur, ce sont deux professions a priori différentes.
Alors tout à fait, d'ailleurs c'est pour ça qu'on raccorde aussi souvent déjà ça en premier à son apprentissage de la boulangerie, parce que dans le palais il y a beaucoup des détails qui ont l'air d'être façonnés à la main un peu à la façon de la pâte à pain, donc en fait c'est un total autodidacte le facteur cheval, mais l'idée du palais idéal elle va aussi germer de ces longues marches qu'il fait tout seul dans la nature durant ses tournées de facteurs qui sont très très longues, et c'est au cours de ces tournées seules qu'il se met à rêver aussi d'un palais idéal qu'il construirait un jour pour lui.
Il y a quand même l'histoire d'une pierre, d'une sorte de révélation qu'il a eue un jour lors de l'une de ses tournées. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire, Laurie Cheval-Bianco ?
Alors l'histoire de cette pierre, elle est très très intéressante, à la fois parce qu'elle représente le début de l'histoire du palais idéal, et d'autre part aussi parce que le facteur en fait cet élément très très important en fait. Lui, dans les nombreux récits qu'il va aussi faire du début de l'aventure du palais idéal, il mettra toujours au point de départ la pierre d'achoppement. Donc l'histoire de cette pierre et le côté un peu mythique de cette pierre, c'est aussi un fait du facteur cheval. Et en fait, il raconte, il a une manière assez belle de le raconter, et il le racontera très 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 souvent aussi aux journalistes. Et en fait, il raconte qu'un jour de 1879, au printemps, sur sa tournée de facteur, il raconte qu'il était un peu pris dans ses pensées, perdu dans ses rêveries, et en fait, son pied a trébuché sur une pierre qui était à demi enterrée dans le sol. Et en fait, en trébuchant, son pied a accroché donc un morceau de cette pierre qui va sortir du sol. Et en fait, le facteur va revenir sur ses pas pour voir ce qu'il a fait trébucher. Et en fait, il découvre cette pierre extraordinaire. Alors, peut-être que cette pierre, comme c'est une pierre de rivière, on pense qu'elle était peut-être couchée. Alors, c'est vrai que si on n'a pas le visuel de ce que c'est que cette pierre d'achoppement, c'est assez particulier. C'est une pierre qui est quand même assez grande. Alors lui, il dit, je vais la mettre dans un mouchoir de poche. C'est quand même une pierre qui doit faire à peu près, 50-60 cm de haut quand même, et qui est pleine de circonvolutions un petit peu, qui est creusée par le sillage de l'eau en fait. Et c'est une pierre qui renvoie à un passé un peu rêvé, un peu fantastique, parce que c'est une pierre qui n'a pas 100 ans, mais qui est vraiment très 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 ancienne et qui renvoie au temps préhistorique en fait, qui fascinait d'ailleurs le facteur cheval. Et en fait, cette pierre, il se rend compte qu'autour de cette pierre, il y a d'autres pierres aux formes tout aussi extraordinaires, et il va se mettre à les collecter petit à petit, et l'histoire commence comme ça.
La journée, il faisait sa tournée. Il trouvait des pierres, il les mettait de côté, il allait les chercher avec sa brouette le soir. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer comment ça se passait ?
Alors effectivement, au départ, ça se passe comme ça, parce que le facteur, quand il commence à construire le palais, quand il a cette épiphanie aussi de la rencontre avec la pierre, en fait, il est encore employé des postes, donc il fait des grosses journées encore, il travaille toute la journée. Donc c'est vrai qu'il faut imaginer la première partie du palais idéal qui correspond à la façade est. Comme le palais idéal est constitué de quatre façades, c'est comme un grand rectangle, il y a deux grands côtés, deux petits côtés. Et la façade est, c'est un grand côté, c'est le côté qui lui demande le plus de travail, c'est 20 ans de travail. C'est assez énorme au regard du reste du palais qui lui prend 33 ans au total. Le temps de travail est assez énorme, ça correspond au fait que le facteur travaille la journée, donc il construit le palais la nuit. Donc en fait, il ramasse ses pierres, donc soit il fait des petits tas, il va venir les chercher ensuite plus tard, donc ça fait quand même une grande journée de travail. Soit il les ramène dans sa sacoche. Et c'est comme ça que le palais va prendre forme. Et en fait, sur la première façade, on s'aperçoit qu'elle est très, très minérale, parce que c'est vraiment des pierres agglomérées les unes aux autres, collées au moyen d'un mortier. Et on a vraiment, c'est vraiment l'histoire de ces pierres extraordinaires. C'est des pierres qu'on appelle des gogottes, parce que c'est des pierres qui se trouvent... Alors, la particularité des gogottes, c'est que ça ne se trouve quasiment qu'ici. Les bassins de gogottes, on en trouve à Hautrive, on en trouve dans la région de Fontainebleau et en Roumanie. Donc en fait, si le facteur avait été nommé dans une tournée tout à fait différente d'Hautrive, jamais le palais aurait eu cet aspect-là. Donc les tournées, c'est l'élément essentiel du palais idéal. Sans les tournées, sans le paysage, il n'y a pas de palais idéal.
Et les gogottes ressemblent à quoi exactement ?
Alors les gogottes, généralement on a tendance à dire que ça ressemble un petit peu aux formes qu'on ferait sur la plage avec du sable et de l'eau. Ça a un aspect un peu de quelque chose qui coulerait. Et en fait les gogottes c'est une concrétion très très dense, c'est la rencontre de sable et d'eau, mais c'est un élément qui est préhistorique en fait. Et à Hauterive on en a beaucoup parce que le facteur cheval, c'est une époque où on est au début de la préhistoire comme discipline, on s'intéresse beaucoup à cette période-là. Et en fait à l'époque du facteur cheval, on commence à savoir qu'ici, à l'époque préhistorique, il y avait la mer. Je vous laisse imaginer l'imagination si fertile du facteur cheval. En pensant à ça, en pensant qu'il marche presque au fond de la mer, ça devait être quelque chose qui devait vraiment stimuler son imagination.
Je ne l'ai pas vu en activité, hein, parce qu'il a pris sa retraite en 1894. Et moi, je suis né en 1903. Mais alors, il a travaillé pendant longtemps encore. Tous les jours, il était dans le torrent, là, qui cherchait des pierres. Et quand on allait à l'école, tous les matins, il était au petit pont en bas avec sa bourrette. Oh, pensez-vous si je l'ai connu? Il me semble que je le vois encore. Je ne suis pas instruit. C'en faut. Mais j'en ai conclu que dans le tournant, il avait un certain mérite, parce que vous savez, il fallait en avoir dans la tête. Et puis, quand il s'agissait qu'à 10, 11 heures du soir, qu'il était encore à son palais idéal et que sa femme lui donnait à manger à la main, comme ça, pour ne pas perdre de temps, il se contentait d'un oignon avec du sel et un morceau de lard. Il se contentait de peu. Mais sa femme lui donnait à manger au chantier, là-bas, la nuit, quand ça pressait tôt. Hein. C'était un vaillant. C'était un intrépide au travail. Eh bien, il faisait sa tournée à pied, mais à 8 heures du soir, il était encore par les chemins.
Chère Marie, je t'envoie des cartes qui représentent l'œuvre d'un maniaque dans le genre du curé de Saint-Malo. Ça a l'air très curieux et surtout bien original. Mon itinéraire est fait. Demain jeudi, je couche à Montélimar. Vendredi à Orange, samedi à Carpentras. Et je travaillerai lundi à Avignon où tu pourras m'écrire. Je t'embrasse, Joséphine. À Mademoiselle Marie Josserand, Mont-Bellevue, Saint-Étienne, Loire.
Parmi les sources d'inspiration du facteur cheval, il y a donc la nature qu'il peut observer pendant ses tournées, mais il y a aussi les courriers qu'il délivre en tant que facteur, que ce soit des lettres, que ce soit des cartes postales, que ce soit aussi des magazines. Est-ce que ça fait partie aussi de ces sources d'inspiration?
Alors, c'est une source, bien sûr, d'inspiration très forte. Quand même, pour préciser, pour bien insister sur un point qui n'a pas toujours été très clair ou pas toujours été dit comme ça par rapport au facteur cheval, il y a effectivement les courriers qu'il distribue, mais il y a surtout les magazines auxquels il est abonné, des magazines qu'il reçoit, et il y a vraiment une démarche proactive en direction du savoir. Pour le dire autrement, ça n'est pas comme on a fait beaucoup du facteur, des choses qui lui sont tombées dessus par hasard et qu'il aurait pioché. Il y a quand même, il est abonné à différents magazines qui vont nourrir sa curiosité et qui vont nourrir sa connaissance du monde qu'il va ensuite répercuter dans le palais. C'est aussi une source d'inspiration littéraire. On a dans le palais autant la devise de Jacques Coeur que des poèmes turcs, un poème de Goethe. Voilà, et ça c'est des choses qu'il va retrouver dans le magasin pittoresque, notamment, qui est un des magazines illustrés de l'époque auquel il est abonné. Et ce qui va aussi très probablement former son style littéraire. Il adore les rimes, beaucoup de citations sur le palais idéal sont en vers. Enfin, ça lui vient aussi de là. Il y a un style, à mon sens, facteur cheval, qui est aussi très efficace à la lecture.
Est-ce qu'on peut imaginer que pendant ses tournées, il pouvait regarder les cartes postales qu'il pouvait distribuer?
Oui, bien sûr. Alors, surtout sur la fin de la carrière du facteur cheval, parce que les cartes postales sont arrivées plus tôt à ce moment-là. Mais effectivement, on est aussi dans une période de l'orientalisme, hein, avec Pierre Loti et autres. On est aussi dans la période des grandes expositions universelles. Donc c'est tout un savoir qui va se développer et aussi se diffuser. Et se diffuser au travers d'images qui ne sont plus que des gravures, mais aussi des photos et des illustrations du monde entier qui viennent circuler plus librement.
Alors à propos d'images et d'illustrations, on en a quelques-unes d'assez remarquables sous nos yeux devant cette façade ouest devant laquelle on s'est assis. On a donc une représentation de la Maison Blanche. Qu'est-ce que je vois à côté? La Maison Carrée d'Alger. On a un chalet suisse, un château du Moyen-Âge. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer cette façade comme autant de représentations d'éléments du monde qui ont pu faire peut-être rêver le facteur cheval?
On est dans la même dynamique que le musée imaginaire de Malraux. Malraux qui vient rassembler des images et en faire son propre musée de papier. Le facteur cheval a fait la même chose, mais en pierre. Hein. Il cumule des images. Là, on est face à la mosquée. C'est la mosquée de Tauris qu'il voit en gravure et qui va l'inspirer. La maison carrée d'Alger, exactement la même chose. Enfin, il se fait son propre musée imaginaire, son propre musée du monde. C'est d'ailleurs pour ça que tout est libellé. Mais comme c'est libellé aussi dans les cartes postales, hein, vous avez une phrase qui vous signifie de quoi il s'agit. Lui fait exactement la même chose avec le palais, sauf qu'on est en 3D, on est en relief et qu'on n'est pas grandeur nature loin de là, mais quand même sur de grandes proportions.
Et cette façade ouest a été construite à peu près à quelle période?
Alors, elle est construite dans la deuxième moitié de la construction du palais. En fait, le facteur va avancer au fur et à mesure des parcelles de terrain qu'il peut acheter. On est en 1900, un petit peu avant 1900.
Grand Serre, le 9 septembre. Chère tante, nous désirerions savoir des nouvelles de l'oncle qui était indisposé lorsque mon papa est allé vous voir. Quoique nous espérons qu'il aille mieux, nous aimerions bien recevoir de vos nouvelles quand vous pourrez. Si l'oncle a besoin de mon papa pour vendanger, il ira quand vous voudrez, et moi aussi si vous me voulez. Votre petit-neveu qui vous aime tendrement, Bouvier Gigi. À Madame Marie Barthes, Boissonnet à Saint-Joseph, à Saint-Julien-Moulin-Molette, Loire.
Marie-Ève Bouillon, vous êtes historienne de la photographie. À quoi pouvaient ressembler les cartes postales que le facteur distribuait quand il construisait son palais idéal?
Au tout début, les cartes postales étaient vraiment des objets administratifs. La carte postale a été mise en place en France par la loi de finances du 20 décembre 1872, qui, comme un coup d'envoi généralisé, a une facilitation des échanges entre individus, des échanges interpersonnels qui permettent à moindre coût de communiquer des pensées et communiquer avec ses proches. Au début de l'activité du facteur cheval, c'est presque une véritable révolution en fait qu'il connaît en termes de distribution de courrier, puisque il commence son activité en 1867, mais 1872, donc c'est ce coup d'envoi de la carte postale administrative. Et la semaine après 1872, eh bien, il y a plus de 7 millions de cartes postales qui sont vendues en France. Donc on a une augmentation du courrier très très conséquente. Ça change, c'est une véritable révolution finalement pour les personnes qui distribuent ce courrier, de voir toutes ces cartes postales arriver en effet pour des échanges qui sont beaucoup plus simples, rapides. Il s'agissait d'une correspondance ouverte, donc le texte est visible par tout le monde. Donc on ne se raconte pas forcément avec la carte postale. On échange très rapidement sur des faits, sur des situations, et on transmet une pensée.
Alors, à votre avis, Marie-Ève Bouillon, quel type de carte postale pouvait circuler entre les mains du facteur dans la Drôme des Collines, donc une région rurale assez pauvre? Est-ce que, selon vous, il avait régulièrement des cartes postales entre les mains et à quoi pouvait-elle ressembler?
Alors, il avait sans aucun doute des cartes postales dans les mains, puisque en 1881, il y a une circulation de 30 millions de cartes postales en France qui ne fait que croître pendant les 10, 15, 20 années qui suivent. Donc les cartes postales qu'il pouvait avoir entre les mains, finalement, c'est des cartes postales du monde entier. Mais aussi, elles pouvaient être des cartes postales envoyées de village en village, très simples, d'une rue, des habitants de village. Elles avaient une forme très spécifique, ces cartes postales, à la fin du 19e siècle, relativement standardisées en termes d'écrit, puisque les images étaient d'un côté, l'écrit était au recto également, et l'adresse était seule au verso.
Et quel type d'imaginaire ces cartes postales pouvaient-elles véhiculer ? Est-ce qu'elles ont contribué, comme vous dites qu'on pouvait avoir des cartes postales du monde entier, à donner une image du monde différente, ou simplement à montrer le monde tel qu'il existait ?
Alors, montrer le monde tel qu'il existait, peut-être pas forcément, parce que la carte postale est un émerveillement. C'est plus une image idéale d'un lieu, une image qui correspond finalement à l'idée que se font les gens des lieux pour cet usage très spécifique de la carte postale touristique.
Est-ce que la carte postale reflète aussi l'empire colonial français ?
Oui, la carte postale est produite aussi pour des touristes français dans l'empire colonial, avec une vision finalement très faussée d'un empire, voilà, presque idéalisé sur des cartes postales, avec un imaginaire qui est celui plus des colons et qu'il participe à transmettre, d'autant plus à faire circuler en France métropolitaine.
Donc on pourrait imaginer que ce sont des paysages, les paysages rêvés, en tout cas des paysages qu'il aurait aimé vouloir voir ou qu'il aimait tellement qu'il avait envie de les sculpter sur son palais.
Le facteur cheval n'a jamais vu la mer et il va imaginer et il va construire surtout et réaliser des bâtiments qui sont au-delà des océans. Donc c'est pour dire cette envie d'ailleurs qu'il va réaliser ici. En plus, c'est une façon pour lui de les partager, de la même façon que les cartes postales. Vous allez envoyer un souvenir pour montrer où vous étiez et donner une image du lieu où vous étiez. Le facteur cheval, il va donner une image de tous ces lieux pour des gens qui ne savent pas. Ces visiteurs n'ont pas tous croisé une mosquée, n'ont pas tous été à Alger, ni même en Suisse. Et il fait la même chose avec les animaux. Quand il écrit sur l'autruche, autruche, c'est pour donner une image de ce qu'est une autruche. Et qu'à Haute-Rive, effectivement, en 1900, on ne sait pas forcément ce que c'est, loin de là.
Le palais, c'est pas un monument qui est fait que pour le facteur cheval, c'est un monument qui est très tôt destiné à venir rencontrer les yeux d'autres personnes et à venir leur proposer un voyage que le facteur n'a jamais fait lui-même, c'est-à-dire que le facteur n'a jamais quitté, n'est jamais allé plus loin que Lyon, on pense. Donc lui, il a voyagé par les images et il invite en fait, au moyen de ses vignettes, au moyen de ce monument plein d'images, il invite les visiteurs à le faire aussi, il leur propose le voyage dans un petit musée du monde qui est le palais idéal.
Merci à Laurie Cheval-Bianco, Frédéric Legros, Marie-Ève Bouillon, les cartes postales du facteur cheval, premier épisode, les tournées, une histoire particulière de Céline Duchesnay et Laurent Polleret. La suite au second épisode.
Roman, ce 26 janvier. Sommes en très bonne santé. Pensons rentrer jeudi soir à 3h. Nous promenons beaucoup et nous amusons également. Malheureusement, sommes arrosés tous les jours. Bon baiser pour toi et mémé, ta fille, Juliette. À Madame Campagne, chez le chanoine Morel, Aume, par Montagne, Héros.